BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez sur BPM. Vous le savez, comme chaque semaine, nous sommes là et bien pour vous présenter une émission consacrée aux associations locales du Mantois. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Mérien, présidente de l'association ASA, accompagnement scolaire et alphabétisation basée à Épône. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Notre association est une petite association éponoise créée il y a 17 ans maintenant à l'initiative de la Caisse des écoles avec un double objectif, s'occuper des enfants, aider les enfants qui ont besoin d'aide aux devoirs, qui ont besoin d'accompagnement après l'école ou le mercredi et d'autre part donner des cours d'alphabétisation aux personnes d'origine étrangère.
Qu'est-ce qui a été le point de départ ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dedans ?
Eh bien, moi, j'étais professeure en collège et les enfants en difficulté, très souvent, on constate que c'est parce qu'à la maison, il n'y a pas d'aide pour faire les devoirs, pour reprendre les leçons, pour expliquer. Donc, voilà, j'ai eu cette envie d'aider ces enfants à progresser.
Comment ça s'est traduit ? Comment vous êtes lancé ? Par quoi vous avez commencé ? Parce que du coup, on voit les deux volets bien distincts l'un de l'autre, on va dire, en quelque sorte, même s'ils se retrouvent, bien sûr. Le point de départ, du coup, ça a été quoi ? Se dire, bon, on va faire une forme de soutien scolaire et puis ensuite, on montrera des cours aussi un peu pour adultes ?
Non, le point de départ, c'est une volonté d'un conseiller municipal d'Épône de développer les activités de la Caisse des écoles et de les développer dans ces deux directions. Je pense qu'il y avait aussi une volonté d'insertion des populations d'origine étrangère à Épône. À Épône, nous avons un quartier de HLM assez important, cette population-là avait besoin manifestement d'intégration. Donc je pense qu'il y avait ce souci-là, ce besoin-là, plus le besoin de faire progresser les enfants de ce quartier-là, pas seulement, mais eux en particulier.
Ça s'adresse aux enfants de quel âge exactement ?
Ça s'adresse au départ aux enfants de primaire. Et puis, quand nous avons suivi des enfants de primaire plusieurs années, ils nous ont souvent demandé de continuer au collège. Donc, on a continué avec certains au collège. Voilà.
Ce qui est plutôt rigolo, c'est que finalement, vous étiez professeur en collège, mais pour autant, l'idée a été d'aider ceux en primaire. Ce qui veut dire que vous voyez arriver au collège des enfants avec déjà des difficultés qui auraient pu être prises en charge à l'origine ?
Bien sûr, c'est évident. Mais c'est... Oui, les difficultés des enfants, on les voit dès le CP et même souvent avant. Nous avons même eu des enfants de maternelle. Ça nous est arrivé de prendre des enfants de maternelle, enfin de grandes sections de maternelle. Hein. Bon, là, il y a un gros problème au niveau du langage pour beaucoup d'enfants. Donc, c'est sûr que si on fait un accompagnement au niveau du langage, les progrès seront forcément plus importants, quoi. Donc, effectivement, bien sûr, c'est évident que les difficultés, on les voit au niveau du primaire. Au collège, c'est déjà un peu tard pour remédier aux difficultés. Au collège, nos cours sont efficaces pour les collégiens. Quand les collégiens eux-mêmes sont volontaires, il ne faut pas que ce soit les parents qui nous les envoient. Il faut que ce soit les collégiens.
Oui, parce que si c'est à contre-cœur, finalement...
Ça ne marche pas.
Ce sera contre-productif. Ouais.
Au niveau du primaire, ce sont les parents, bien sûr, qui nous les envoient. Et là, au niveau du primaire, ça marche si les parents eux-mêmes sont volontaires et tout. Mais au niveau du collège, si l'enfant adhère pas, ça ne va pas. Il y en a qui s'arrêtent, d'ailleurs. Hein. Quand nous avons des arrêts en cours d'année... Ce sont les collégiens, la plupart du temps, pas les primaires. Voilà, mais en général, quand même, je pense que c'est efficace parce que nous avons toujours des enfants qui reviennent et des parents qui nous redemandent. Donc, si ce n'était pas efficace, on les verrait parvenir. Hein. C'est une évidence.
Quels sont les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer ?
Les enfants, vous voulez dire ?
Oui.
Comme je vous dis... Il y a le problème du langage, du vocabulaire. Nous avons quand même énormément d'enfants d'origine étrangère. Nous avons un groupe d'enfants moldaves, d'enfants d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale. Enfin bon, des enfants d'origine étrangère, c'est-à-dire dont les parents ne parlent pas bien la langue française.
Donc à la maison déjà le français.
Donc à la maison, on ne parle pas la langue. Donc là, on a un gros problème de vocabulaire, de prononciation, de... Voilà. Donc ça, c'est le principal problème. Après, il y a d'autres enfants qui peuvent avoir des difficultés un peu plus psychologiques. Et ça peut induire, par exemple, des difficultés en mathématiques. Ceux qui ont des difficultés motrices peuvent avoir des difficultés qui se retrouvent dans les maths, dans le fait de compter, de soustraire, d'ajouter, des choses comme ça. Alors ça, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément des enfants d'origine étrangère. Mais nous avons quand même une grande majorité d'enfants d'origine étrangère.
Comment est-ce que les enfants arrivent jusqu'à vous? Est-ce que ce sont les professeurs qui vous les envoient, on va dire, en quelque sorte? Est-ce que c'est vous qui repérez? Comment ça se passe?
Au départ, ça s'est passé par l'intermédiaire des professeurs, des instituteurs, qui nous envoyaient les enfants en difficulté. Nous faisions de la... Enfin, au début de l'année scolaire, j'allais dans les écoles avec des petits papiers et je demandais, voilà. Et donc, les instituteurs nous envoyaient certains enfants. Mais depuis quelques années, nous avions 25, 30 enfants, parce qu'au début, nous étions plus nombreux. Et puis, au fur et à mesure, nous avons les enfants, ça se fait par bouche à oreille, et nous avons les enfants, souvent, des parents qui sont venus prendre des cours de français, des parents étrangers qui sont venus prendre des cours de français, et qui nous demandent de prendre leurs enfants en charge. Bon, maintenant, nous n'avons plus que 15 enfants, parce que nous avons eu une réduction de nos bénévoles, et ce sont pratiquement des enfants de... Ou alors, après, fonctionne le bouche à oreille, effectivement, dans la cité, et on vient nous voir, est-ce que vous pourriez prendre... Tous les ans, on refuse des enfants, hein, ça, c'est clair.
Comment ça fonctionne? Vous faites des petits groupes de niveau, par exemple, ou comment vous fonctionnez?
Pour les enfants, nous les prenons individuellement.
Uniquement?
Uniquement individuellement. Donc, il n'y a pas de groupe de niveau. C'est un enfant individuel.
Qu'est-ce qui vous a donné envie?
Avec nous. Hein, avec un bénévole. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonctionner comme ça?
La constatation, au début, nous avons commencé avec des petits groupes, 2, 3, et nous fonctionnions le soir aussi, après l'école. Les enfants étaient fatigués, et à 2 ou 3 qui ont des difficultés de concentration, eh bien, c'était très difficile de faire du travail efficace. Donc, on a supprimé le soir, on ne fait plus que des cours le mercredi, et on les fait tous en individuel. Et on est plus efficace. Voilà. Maintenant, on ne peut pas en prendre beaucoup, évidemment. Ou alors, il faudrait être une grosse association avec beaucoup, beaucoup de bénévoles. Mais voilà, c'est pas non plus... c'est pas le cas.
Donc là, sur une journée type, par exemple, le mercredi, vous allez avoir différents enfants de différents niveaux. Comment vous travaillez avec chacun?
Eh bien, nous travaillons à partir des devoirs qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, nous essayons de faire les devoirs qu'ils ont à faire. Et puis, on essaye aussi de travailler leurs difficultés particulières. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui a des difficultés en calcul, eh bien, on va insister sur les dizaines, les centaines, machin. Si c'est un enfant qui a des difficultés pour lire, eh bien, on va travailler le vocabulaire, on va travailler les sons, voilà. Donc, voilà, selon l'enfant, on essaye de ne pas faire que les devoirs, mais un approfondissement dans un domaine ou dans un autre. Et aussi, on essaye de jouer, parce qu'une heure, c'est long. Pour les petits, par exemple, CP, tout ça, c'est long. Donc, il faut qu'il y ait une phase de jeu, de lecture d'histoire, il faut qu'il y ait du changement. Donc, on essaye de varier les activités dans l'heure.
Ça doit être une vraie fierté aussi pour vous de voir les progrès chez ces enfants.
Ah bah quand il y en a, oui, oui, c'est une fierté, c'est une fierté. Alors, on reste en lien avec l'Instit. Là, on a un petit enfant de CP d'origine moldave qui avait beaucoup, beaucoup de mal au début de l'année. Le bénévole est allé voir l'institutrice et lui a demandé comment est-ce qu'on peut travailler avec lui, parce que voilà. Et donc, il a modifié un peu sa manière de fonctionner, en particulier en travaillant davantage sur les sons, en jouant davantage. Et ça va un petit peu mieux. Voilà.
Ça veut dire qu'un lien se crée aussi avec les instituteurs, parfois?
Parfois, oui, parfois. La plupart du temps, non. La plupart du temps, on a un contact au départ. On a mis en place au départ une espèce de fiche qu'on envoie à l'Instit, qu'on demande à l'enfant de présenter à son instituteur qui va remplir pour dire quelles sont les difficultés de l'enfant. Donc on a toujours ce lien au départ. Mais après, bon, si ça roule, on n'a pas de raison d'aller voir à nouveau l'institut. Si on a vraiment des difficultés, c'était le cas avec celui-là, eh ben on retourne voir, enfin je demande un rendez-vous à l'instituteur et on parle avec lui.
Comment c'est perçu ça par les instituteurs en l'occurrence ?
Bah, jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas envoyé balader.
Non, au contraire, ils doivent même être plutôt heureux d'avoir ce soutien.
Oui, parce que, non, mais ayant été prof, je sais que, voilà, faut être prudent, faut pas marcher sur les brisés des autres, voilà. Donc, moi, je suis toujours très, très prudente, ils le prennent plutôt bien, parce que, voilà, c'est dans l'intérêt de l'enfant, hein. Et puis, on dit nos limites, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va pas les faire devenir des génies en une année, c'est absolument pas le cas. Mais, voilà, comment est-ce que vous travaillez, vous? Comment est-ce que je peux vous aider? Enfin, c'est comme ça qu'on y va avec l'institut. Hein. Qu'est-ce que je peux apporter une heure que je passe avec cet enfant? Dans quel domaine je peux le faire progresser? C'est forcément eux qui nous disent, vous pouvez faire plutôt comme ça ou plutôt comme ça.
Donc, il y a des enfants que vous suivez parfois pendant plusieurs années?
Tout à fait, bien sûr, oui, oui. Souvent, enfin, la plupart, c'est 2, 3, 4 ans, voilà. Mais parce que... Et puis des familles, on a des fratries. Et ouais, c'est sympa. Et puis on établit un lien avec eux, parce que en plus on fait en fin d'année toujours une sortie pédagogique, enfin que je veux pédagogique et en même temps récréative, on va dire les deux. Et donc là, les parents sont invités à venir, c'est gratuit pour un parent et pour les enfants bien entendu. Et donc là, il y a une autre relation, un autre contact évidemment. Et voilà, et cette sortie est très très appréciée. Et j'ai des mamans qui n'ont plus leurs enfants avec nous, mais qui viennent me dire la sortie, c'est quand? Oui, d'accord. Si j'ai de la place, je vous prends. Bon, voilà. Mais c'est pour dire, c'est...
Ça montre le lien d'attachement.
Bah oui. Et puis, c'était dans notre objectif de départ. C'est-à-dire de créer des liens dans la ville d'Épône entre le quartier, disons, entre guillemets, pauvre, et les quartiers plus aisés. Voilà. Parce que notre ville d'Épône, elle est quand même un peu... comme beaucoup de villes, il y a des quartiers, hein. Le Val-Fouré, c'est pas le centre de Mantes ou c'est pas les Martrais. Et ben, chez nous, c'est pareil. Donc, c'est important, moi je trouve, c'est important que dans une ville, les gens se rencontrent.
Sans vouloir voler la surprise, vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire comme sortie cette année?
Ah ben oui, c'est la semaine prochaine alors, autant que j'aimerais. On va à Dieppe et on va faire le matin la visite du musée avec un atelier impressionniste pour les enfants. Donc, mes adultes, c'est moi qui m'en occupe. Et puis, l'après-midi, on fait une petite balade en mer. Et voilà.
Je comprends qu'ils aient envie de venir.
Oui, oui. Oui, parce que c'est des choses qu'ils ne font pas. Quoi. Même aller en bateau. On va aller 45 minutes en bateau. Mais je suis sûre qu'il y en a plein, ils n'ont jamais mis les pieds dans un bateau. Donc, voilà, c'est sympa. Et puis, voir la côte depuis la mer, c'est autre chose, quoi. Donc, voilà, on essaye de varier. L'an dernier, on était à Chartres. On a fait Versailles, bien sûr. On est allé à Paris. Voilà. Maintenant... on essaye de varier hein, les endroits. Alors pour ça, il nous faut une subvention de la mairie, voilà, qui a beaucoup diminué cette année, je tiens quand même à le dire. Voilà. Bon, bref, il ne nous faut pas que ça, mais bien sûr que ça.
Mais c'est important pour les associations, bien sûr.
Ben oui, voilà. Hein. Voilà, non, mais... Puis il nous faut surtout des bénévoles, et ça, c'est vrai que... c'est ça le plus important, et c'est plus difficile quand même. Parce que nous, les baby-boomers ont vieilli et voilà, quand on va arriver à 80 balais, on va quand même dire, je sais pas si on continue, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon bénévole à l'ASA?
Il faut surtout être, être bienveillant avec les enfants. Il faut surtout être bienveillant avec les enfants et avec les adultes, bien sûr.
Hein. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du scolaire, mais il y a bien sûr aussi tout le volet alphabétisation, bien sûr.
Oui, oui. Il faut être bienveillant. Être bienveillant, il faut être à l'écoute des enfants et essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et puis le reste, je dirais, vient tout seul. Voilà. Mais ça, c'est très important. Parce que j'ai quelquefois, mais c'est rare, mais eu des personnes qui étaient un peu dévalorisantes avec l'enfant. Alors évidemment, ça ne marche pas. C'est une évidence. Après, voilà, autrement, oui, il faut se poser des questions. Pourquoi il réfléchit comme ça? Puis savoir jouer.
Voilà. Être curieux.
être curieux, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, j'ai vraiment des bénévoles, une dame qui vient de Mende d'ailleurs, une dame qui s'occupe d'une autre association que vous connaissez peut-être, Déclic.
Voilà. Que l'on avait reçu ici.
Ou que vous aviez reçu, vous savez, c'est toujours un peu les mêmes qui tournent. Hein. Voilà. Et donc, non, on a des gens très très bien. Voilà, c'est ça le plus important. La bienveillance et l'effort de compréhension à l'égard de celui qui apprend notre langue. Là aussi, c'est...
Qui fait l'effort aussi.
Oui.
Oui, parce que c'est difficile de faire ce pas, parce qu'on a beaucoup parlé du scolaire, effectivement, vous le disiez, hein, les parents inscrivent les enfants. Mais quand on est adulte, je suppose que la démarche en tant qu'adulte, bien souvent étranger, ne doit pas être facile, finalement, de passer le pas.
Oui. C'est... Alors, ils ont un besoin, et donc, ils viennent avec ce... D'ailleurs, il faut dire que pour les adultes, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne reviennent pas. J'ai peut-être eu une trentaine de personnes qui sont passées par, qui se sont même inscrites, qui sont venues 2, 3, 4 fois, et puis qui ne reviennent pas, pour plein de raisons. Ils trouvent du travail, leur situation change, leur situation administrative change, des choses comme ça. Hein. Donc, je ne les revois pas. J'en ai 15, disons, actuellement j'en ai 15, mais il y en a qui sont là que depuis quelques mois, les mamans elles tombent enceintes, elles ne viennent plus, enfin voilà. Donc, Il y a ce problème-là au niveau des adultes, un problème de continuité, quoi. Mais effectivement, oui, c'est difficile. C'est difficile en tant qu'adulte d'être en difficulté, de pas, voilà, de se comparer aux autres. J'ai une petite Marocaine, dès qu'on rigole, ah, pourquoi tu ris de moi? Voilà, parce que elle. Et puis, différents niveaux aussi intellectuels se voient forcément, quoi.
C'est pareil. Là, vous fonctionnez comment pour les adultes?
Alors là, on fonctionne par groupe de niveau. On a un niveau alphabétisation pur, quoi, hein, B.A.B.A.
Donc, alphabétisation, ça va être apprendre, déjà ne serait-ce que l'alphabet et pouvoir écrire.
Voilà, parce qu'on a aussi des hommes et des femmes qui ne sont jamais allés à l'école, ou très très peu. Donc déjà, il faut apprendre l'alphabet. Hein, ou alors des hommes et des femmes qui connaissent l'alphabet arabe, qui écrivent en arabe, par exemple, mais qui n'écrivent pas en français. Donc il faut le traduire. Voilà, donc on a un niveau alphabétisation, même déjà j'ai séparé un peu en deux parce qu'il y a déjà un alpha plus et puis bon bref. Et puis après on a un niveau A1, le niveau d'apprentissage de la langue de français. Donc ça c'est pour les gens qui ont déjà fait des études chez eux et qui écrivent dans leur langue, qui lisent et qui écrivent dans leur langue et qui veulent apprendre à lire et à écrire en français. Donc là j'ai un niveau A1 et on a un niveau A2. A2 c'est un peu supérieur quoi.
Qui d'ailleurs... Quand on parle déjà suffisamment, on arrive à s'exprimer correctement. Oui. On est encore un peu sur des rudiments, mais déjà, on maîtrise un peu plus.
Oui, oui. On est déjà capable de dire à peu près tout ce qu'on veut, mais on le dit très mal. Ou alors, autre cas de figure qu'on a rencontré plusieurs fois, des personnes qui sont arrivées en France à 17, 20 ans, qui ont maintenant 50 ou 60 ans, qui ont appris sur le tas et qui parlent, mais d'une manière... Ben voilà, quand on fait des efforts, on comprend. Mais et souvent, là, c'est des personnes un peu âgées, qui s'ennuient, qui viennent, et voilà, mais qui ont aussi besoin de contact. Il y a ça aussi.
Le lien social.
Le lien social, voilà. On a une dame serbe très, très gentille, mais voilà, et elle veut apprendre à lire et écrire le français, mais elle l'a appris tellement sur le tas que c'est hyper compliqué, quoi. Et hyper compliqué de progresser aussi quand on a 60 ans. Hein, parce qu'il faut pas rêver, le cerveau il est plus le même. Donc, mais en même temps, elle est très gentille et puis ça lui fait beaucoup de bien sur le plan relationnel. Donc, vous voyez, c'est vraiment très 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 varié aussi comme type de travail, quoi. Et ça demande de quand même de faire de la gymnastique, quoi, pour satisfaire à la fois cette dame qui vient là pour se distraire et puis ce jeune vénézuélien qui lui veut vraiment progresser en français, apprendre le français, vivre en France. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose.
Comment vous êtes formé? Parce qu'à l'origine, vous nous disiez, vous étiez professeur d'histoire. Comment vous êtes formé à enseigner le français?
Oui, alors ça, je ne sais pas si je le fais très bien d'ailleurs. Hein. Je fais ce que je peux. J'ai pris des méthodes, hein, c'est tout. J'ai pris des méthodes de français langue étrangère, de FLE. Et puis je travaille avec ces méthodes. Voilà, voilà. Et puis, ça m'intéresse de comprendre. Alors, je prends des bouquins, j'ai des CD, voilà. Alors, faudrait que je me mette au DVD, mais la technique, c'est pas mon truc. Donc, mais bon, avec des CD, ce qu'on écoute, ce qu'on comprend, et j'ai bien compris que l'essentiel, c'était que les gens parlent, hein, le plus possible, qu'ils expriment, qu'ils dépassent leurs propres inhibitions, parce qu'ils osent pas parler, mais si, il faut oser parler, même si on fait plein de fautes, et c'est pas grave, et voilà. Et bon, bah, apparemment, il y en a qui trouvent aussi leur nourriture, puisqu'il y en a qui restent, qui reviennent, voilà. Hein. Alors, beaucoup moins que pour les enfants, hein. Le public adulte est beaucoup plus volatile. Mais je pense aussi qu'on en a fait progresser et puis ils viennent plus parce qu'ils ont progressé ou ils ont trouvé du travail ou ils ont changé de région, plein de raisons. Hein, c'est vous adapter à ça aussi quoi.
On sait que le bénévolat c'est aider les autres, mais on sait aussi que le bénévole reçoit beaucoup. Vous avez cette sensation de recevoir ?
Ben bien sûr que je reçois beaucoup, bien sûr que moi ça me fait du bien parce que ça me fait travailler mon cerveau, parce que j'aime la relation d'enseignement que j'ai pratiquée longtemps. Et en plus, là, je la pratique avec des gens qui veulent. Parce que quand on avait des collégiens, ils n'avaient pas envie d'être là, ce qui n'est pas du tout pareil. Voilà. Et puis sans enjeu. Enfin, quand j'étais prof, c'était différent. Il y avait des enjeux. Donc, bien sûr, oui, ça m'apporte beaucoup, bien sûr. Et puis, ils ont la fraîcheur. Enfin, les enfants ont leur fraîcheur, leur gentillesse, leur naïveté. Qui fait beaucoup de bien à un vieux comme moi, quoi, et donc à une vieille comme moi. Enfin, voilà, bien sûr que ça m'apporte beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à lâcher, parce que y a des moments où ça me fatigue quand même, et je me dis, il faudrait que j'arrête, et j'arrive pas. Alors voilà, pour le moment, je suis là.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que les auditeurs qui vous entendent et qui ont envie, soit de vous accompagner en tant que bénévole, soit qui aimeraient aussi voir leurs enfants accompagnés par quelqu'un d'aussi enthousiasmant que vous, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver?
Eh bien, ils viennent à la mairie des Paunes. Les cours ont lieu tous les lundis, mardis, enfin les cours pour les adultes, lundi et mardi matin, lundi et mardi après-midi aussi. Et puis pour les enfants, c'est le mercredi, toute la journée, de 9h à 18h. Donc, voilà, je suis à la mairie des Paunes, hein, tout lundi, mardi, mercredi. Le lundi et le mardi, je fais une coupure entre 11h et 16h. Mais le mercredi, je suis là de 9h à 18h. Donc,
jolie journée.
Voilà, c'est ça.
Agnès Mérien, merci beaucoup hein, d'être venue, d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter l'ASA. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. À très vite pour une nouvelle émission sur BPM.